Bonjour, bonjour amis auditeurs, bonjour Christian.
Bonjour Natacha.
Alors, on va finir ce petit mois de février, espérons qu'il soit généreux. Et avec, bien sûr, les petits mots, mais comme vous avez été sages, je vais vous en donner deux, des petits mots. Hein. 365 jours pour être heureux de Jackie Béric. Alors que j'ouvre la page et je dis, tiens, celui-là, il va vous plaire, Christian.
Ah bah très bien,
je l'ai choisi.
Je suis curieux.
Oui, alors, il dit, être heureux ne signifie pas que tout est parfait, mais signifie que vous avez décidé de regarder au-delà des imperfections.
Ben voilà.
Et savez-vous qui a dit ça?
Non.
C'est un ami à vous.
Ah.
C'est Aristote.
Ah bah oui, oh. Bien sûr, j'aurais dû m'en rappeler.
Et puis moi j'ai mis aussi un que j'aime beaucoup. Le bonheur, c'est l'harmonie des pensées, des paroles et des actions. Et ça, c'est le Mahatma Gandhi.
Ah, un autre sage.
Très
Allez,
bien. Ce matin, on va écouter des oiseaux, puisqu'on philosophait là. Je vous ai ramené une petite philosophie des oiseaux de Philippe Dubois et Élise Rousseau. Alors, c'est un livre que vous devriez tous avoir à la maison, parce qu'on a tous des oiseaux autour de nous, et ils nous aident à comprendre bien des choses au travers de ce que l'on voit qu'ils font. Voilà. Alors, un merle, par exemple. Un merle posé sur un muret, tout noir, le bec jaune, l'œil brillant. Regardez-le bien. N'est-il pas content d'être un merle ? Sautillant dans le gazon, à l'affût d'un ver de terre, ne semble-t-il pas totalement comblé de son existence? Posez-vous la question. Si nous étions aussi satisfaits de nous-mêmes et de notre vie que lui, notre quotidien serait sûrement plus léger. Dans les contes et légendes, les oiseaux ont souvent un rôle instructeur, initiateur, porteur de messages. Regardez, l'oiseau bleu de Maeterlinck représente le bonheur. Dans la conférence des oiseaux, recueil de poèmes médiévaux persans, racontant le voyage initiatique de 30 oiseaux pèlerins à la recherche de leur roi. Chaque oiseau symbolise un comportement humain. Les oies sauvages de Selma Lagerlöf emmènent le jeune Nils Holgersson dans un voyage aussi fabuleux qu'initiatique. D'ailleurs, il en reviendra changé à tout jamais. L'emblème de la déesse grecque de la sagesse, Athéna, était un oiseau. C'était la chevêche, une petite chouette ronde aux yeux dorés. Les cigognes, pleines de grâce, amies des parents, était censé apporter les bébés dans les foyers. C'est sans parler, bien sûr, cela vous l'avez tous en tête, la blanche colombe qui tient dans son bec le rameau d'olivier qui symbolise la paix. Ou bien les petites hirondelles agiles dont le retour célèbre en Europe le printemps. Au XXIe siècle, quelles leçons les oiseaux ont-ils encore à nous délivrer? À travers ces courtes réflexions ornithologiques, nous devrions découvrir que ces êtres vivants peuvent en réalité se révéler des petits maîtres à penser. Ils nous amènent à réfléchir sur nous-mêmes, pour peu que nous nous donnions la peine de les observer. Nous qui pensions pourtant être au sommet de l'évolution autoproclamée des maîtres du monde. Ces réflexions, vous les trouverez dans ce livre. C'est en s'appuyant sur les résultats des recherches les plus récentes, mais aussi sur notre approche intime avec les oiseaux au travers de longues heures d'observation le long des rivières, dans les forêts tropicales ou tout simplement sur les dunes ventées des déserts du monde entier, ils nous ont convaincus qu'il y avait dans le monde dans ce monde ailé, quelques enseignements à retenir. Discret, maître de vie, les oiseaux, dans leur spontanéité et leur légèreté, ont beaucoup à dire, pourvu qu'on les écoute. Petite chanson sur les oiseaux, Christian.
Allez, on écoute Marie-Myriam, L'oiseau et l'enfant.
Allez.
Aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau. Beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson naissante des vagues, abandonnée au sable blanc. Le sang du poète qui en chantant invente l'amour pour que la vie s'habille de fête et que la nuit se change en jour, jour d'une vie où l'aube se lève pour réveiller la ville aux yeux lourds. Au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, nous trouverons ce monde d'amour là.
La curiosité est-elle un vilain défaut ? Ah, grosse question. Avec ce texte, on va découvrir un oiseau que tout le monde a dans son jardin. Je suis sûre, Christian, vous les avez observés, puisqu'il s'agit du petit rouge-gorge.
Ah bah oui,
bien sûr. Et en ce moment,
on les entend.
On les entend, mais on les nourrit aussi, hein, les petites mésanges, tout ça. Mais alors là, aujourd'hui...
Les merles,
oui. On va parler du petit rouge-gorge, parce que, vous allez voir, il a un petit œil coquin, et... Bien sûr, à travers ça, la philosophie, bien sûr, la curiosité. Hein. Est-ce que c'est vraiment un vilain défaut ? On va avoir la conclusion tout à l'heure. De sa naissance à sa mort, la vie de l'oiseau est un risque. Voler, nourrir, se reproduire, élever ses jeunes, tout est sujet à péril. Et pourtant, sans risque, pas de vie possible. Ainsi, la curiosité de certains oiseaux leur ouvre des champs d'investigation nouveaux, des sources de nourriture abondantes, des lieux remarquables pour nicher ou pour faire tout simplement une halte. Mais la réussite ne vient qu'après les tentatives. Chez les animaux et singulièrement chez les oiseaux, la curiosité est un moyen d'adaptation performant, souvent sophistiqué, qui dans bien des cas est aussi un utile de survie. Prenons, tiens, notre petit rouge-gorge, bien connu des jardiniers et qui s'avère dans les pays d'Europe de l'Ouest particulièrement effronté. N'hésitons pas à se poser sur une chaise, sur une pelle ou tout autre objet de fabrication humaine. Il peut s'approcher de nous aussi à quelques centimètres et nous suivre, bien sûr, dans notre travail. La tête penchée, le petit œil interrogateur, en position statique, on dirait qu'il nous regarde avec intérêt et curiosité. Dès qu'un ver de terre est mis au jour par le râteau, le rouge-gorge fonce et le gobe. Puis il attend le prochain, tout gorge rouge orangé déployé, sans avoir l'air de redouter nullement l'humain gigantesque qui s'affiche à côté de lui et qui s'active aussi. Son nom vernaculaire français, c'est le rouge-gorge familier. Mais ça lui va parfaitement. Originellement, le rouge-gorge est une espèce forestière qui vivant à l'état sauvage, à l'écart des hommes. Depuis toujours, il est connu pour suivre les mammifères. Vous savez, les cerfs dans les bois, les sangliers, lorsque ceux-ci broutent et ou remuent le sol. Il se loge parfois littéralement dans les pattes de l'animal, toujours la tête penchée et son petit œil interrogateur. Il le suit ainsi par petits bonds. Comme dans nos jardins, il est à la recherche des petits insectes il est dérangé par parce que quand le groin du cochon du sanglier il fait des trous, il dérange les vers, les petits insectes, alors soit par le mufle de l'animal, soit par le sabot. Forestier, cet oiseau l'est assurément, mais il se rencontre souvent à la lisière des bois, c'est-à-dire jamais bien loin des habitations humaines. Au fil du temps, il s'est peu à peu rapproché des hommes, jusqu'à les suivre dans leur jardin. Ce comportement un peu opportuniste, de grand curieux, connaît son paroxysme en Grande-Bretagne. Oula, le rouge-gorge fait partie de la mythologie collective. Par exemple, rappelez-vous, mais même en France, on en trouve encore quelquefois, il est omniprésent sur les cartes de vœux à Noël. Quand on achète des cartes de vœux, on en trouve toujours des petits rouge-gorge dans la neige ou autre. L'habitude qu'ont les Anglais de nourrir les oiseaux en hiver a probablement contribué à inhiber certaines réticences des rouges-gorges, ils sont trop mignons. En retour, il est devenu l'une des principales victimes des chats. Oui, parce qu'il est souvent par terre, il se pose souvent par terre et il fait la convoitise des chats. Ça, c'est bien dommage et on n'y peut rien, c'est comme ça. Cette témérité est tellement moins prononcée dans les pays où le rouge-gorge est braconné, comme dans le sud de l'Europe, ou dans ceux où il est resté davantage forestier dans l'Europe de l'Est. Son caractère farouche reprend alors le dessus quand il n'est pas chassé. Cette opportunité l'a développé le rouge-gorge, lui a permis d'élargir son régime alimentaire, mais aussi de coloniser de nouveaux lieux, en s'adaptant notamment au jardin urbain, où il sait l'hiver moins rude qu'en race campagne. Un rouge-gorge des villes aura une plus forte probabilité de survivre à un hiver froid qu'un rouge-gorge des forêts. La curiosité de certaines espèces d'oiseaux peut les pousser à une grande familiarité. Nous avons tous en tête ces photos de moineaux à Paris, ou de mésanges à Londres, ou encore de geais dans les grands parcs naturels américains, venant manger dans la main d'un humain. Ces oiseaux sont restés parfaitement sauvages, mais ont perdu toute crainte à l'égard des hommes. Ils nous observent quand vous êtes en train de déjeuner, par exemple, sur un banc ou sur un aire de pique-nique, et Ils viennent récupérer les reliefs tombés à terre après notre repas, si vous vous mettez dans un petit coin pour les observer. Peu à peu, ils s'enhardissent et se présentent, même fur et à mesure, l'un d'eux finira par prendre la miette que vous lui avez tendue, puis par venir la chercher directement sur la table. Ça vous arrive peut-être quand vous faites vos repas dehors en été. Et enfin, ils viennent dans votre main. Leur curiosité est peut-être une façon de nous tester, de voir si nous sommes toujours des prédateurs potentiels, si nous, les humains, étions bienveillants avec tous les animaux, alors nous vivrions sans doute une relation plus intime comme des espèces sœurs. D'ailleurs, sur l'île de Deserta Amadère, un petit oiseau que l'on appelle le pit-pit berthelot, qui n'a jamais été chassé par l'homme, est totalement, mais alors totalement dépourvu de crainte à notre égard. Il a vite fait de venir se percher sur votre chaussure, sur votre genou, pour attraper une petite miette, jetant ici là un coup d'œil curieux à vous regarder comme pour vous remercier. Alors, la curiosité n'est donc pas un vilain défaut. C'est un comportement naturel qui au pire, et au mieux surtout, procure des bénéfices à celui qui l'exerce. Dans l'arsenal évolutif qui a permis à chacun et à chacune des espèces animales de parvenir jusqu'à nous, c'est un outil puissant, une qualité naturelle, y compris chez les humains. Nous aussi, nous utilisons la curiosité comme moteur à la création. Elle nous a permis d'explorer de nouveaux continents et même d'aller jusqu'à la Lune, de découvrir des remèdes à nos maladies. Elle a finalement au cœur de tout ce qui contribue à notre évolution. Alors, franchement, restons un petit peu curieux. Pensons-y la prochaine fois qu'un rouge-gorge vous observera sur son piquet. Vous savez, si vous avez des piquets, ils se mettent souvent en haut. Alors, ils vous regardent. Alors, perché sur son piquet, regardez-le. Et puis, surtout, donnez-lui à manger en hiver. Il vous en fera grâce.
Cet oiseau n'est pas d'ici. Regardez son bec, ses plumes et ses ailes frangées d'écume. Cet oiseau n'est pas d'ici. Sa chanson m'est inconnue. Et la nuit, quand je sommeille, elle m'éveille et m'émerveille. Comme une chanson des rues. Tout le jour, sur le mur du voisin, mon oiseau pique du raisin. La chatte-boeuf en a peur à cause de son œil vert qui regarde l'univers à l'envers. Il nous fait peur un peu à cause de son œil bleu, de son œil qui change de couleur. Simplement pour nous faire peur.
Un oiseau de paradis, drôle d'oiseau. Regardez-le sortir en chapeau haut de fort. Où va-t-il? Il est énorme. Il bouscule les passants. Le voici dans l'autobus. Il demande la monnaie à une dame. D'un ton sec, la monnaie de sang.
Prétentieusement du bout du bec.
Il est partout à présent, au théâtre, sur les Champs-Élysées, dans ma chambre, dans mon lit. est-ce bien la place d'un oiseau ici, fut-il de paradis?
Oiseau n'est pas d'ici, d'où vient-il? C'est un mystère de la terre. C'est un oiseau de paradis.
Souvent besoin d'un plus petit que soi, ça pourrait être la conclusion de ce livre. Alors, la petite philosophie des oiseaux. Alors, c'est le secret que nous confie ce livre avec bienveillance et douceur. Il faut réapprendre à observer ce qui nous entoure, à écouter les leçons de sagesse prodiguées par la nature. Et quoi de mieux pour cela que de s'arrêter un moment? De un moment, vous savez, le tempo infernal de nos vies, et d'entendre ce qu'ont à nous dire les oiseaux. Par leur monde de vie, ils nous enseignent un art de vivre plus respectueux de nos rythmes, plus profond aussi. Vous y trouverez 22 petites leçons de vie, courtes et simples. Elles nous invitent à retrouver l'être naturel qui dort en nous. C'est écrit par Monsieur Philippe Dubois, qui est un ornithologue écrivain, et puis par Madame Élise Rousseau, diplômée en philosophie et littérature, et journaliste, et auteur d'ouvrages sur la nature et sur les animaux. Je vous conseille, si vous ne le trouvez pas, maintenant on a les moyens d'aller pouvoir sur Internet se renseigner. Je vous souhaite une bonne lecture. Merci Christian de m'avoir accompagné.
Avec plaisir.
Et puis on va finir en musique, bien sûr, et surtout quand vous allez regarder. Alors, un petit conseil personnel, quand vous donnez à manger aux oiseaux, mettez-les sur des piquets en hauteur, ou voilà, pour pas que les chats ils viennent dérober l'oiseau, parce que c'est trop dommage, ils sont trop beaux. Merci, au revoir, bye bye.
Seul dans l'univers, j'ai peur du ciel et de l'hiver, j'ai peur des fous et de la guerre, j'ai peur du temps qui passe. Dit, comment peut-on vivre aujourd'hui dans la fureur et dans le bruit? Je ne sais pas, je ne sais plus.